La bande dessinée d'Inès Leroux, Algue verte, l'histoire interdite, va être adaptée au cinéma et le tournage est terminé depuis peu. D'abord réticente à financer le projet, la région Bretagne a finalement accordé une subvention. La droite a, elle, voté contre. Des espèces d'algues, il y en a plus de 70 000. Parmi elles, les ulves, des algues vertes, l'herbe des marins en latin. Ces algues se développent au printemps et en été sous l'action de la température et une combinaison de facteurs physiques naturels, lit-on sur le site de l'Agence régionale de santé bretonne. Pas de mention ici du rôle joué par l'agriculture intensive, dont les engrais azotés contribuent pourtant à la croissance des algues vertes. Le danger réside ensuite dans la dégradation des algues. L'hydrogène sulfuré libéré peut en effet entraîner des effets qui vont de la gêne au malaise et jusqu'à la mort. Si la Bretagne est confrontée aux marées vertes depuis les années 60 avec une intensification dans les années 70, il faut attendre 2009 pour qu'un plan de lutte contre la prolifération des algues vertes soit officiellement lancé. Depuis, les plans se succèdent, le fléau perdure. Et en 2021, le tribunal administratif de Rennes ordonne à la préfecture de région de prendre des mesures réglementaires adaptées. Comment s'exprime la dénonciation des marées vertes et le soutien à l'agriculture? Par la diversité d'acteurs que sont les associations environnementales, les élus locaux, les syndicats agricoles, mais aussi les professionnels du tourisme. Dans le prolongement, sur les plages, le ramassage est-il sans conséquence? Face au changement climatique, globalement, faut-il laisser faire ou intervenir? Élément de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire, on reçoit Alix Levin, bonjour.
Bonjour.
Alix Levin, vous êtes anthropologue de l'environnement, chargée de recherche CNRS pour Centre National de la Recherche Scientifique du côté de Brest, au sein du laboratoire AMUR, 5 lettres pour aménagement des usages, des ressources et des espaces marins et littoraux. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David, bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de Colette, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
Alix Levin, votre thèse de doctorat s'intitulait « Vivre avec l'algue verte ». Vous avez notamment étudié l'impact de la prolifération de ces algues dans trois de ces algues, l'espèce Ulva, dans trois des huit baies bretonnes les plus touchées. Celle de Lannion, de Douarnenez et de la forêt Fouesnant. Le phénomène ne date pas d'hier. Vous nous rappelez que le terme marée verte fut employé pour la première fois dans un document officiel en 1970-1971. Au fil des décennies, le vocabulaire a beaucoup évolué. On a entendu parler de peste verte qui fait fuir le touriste et le poisson, de fléaux et de problèmes de santé publique, de diarrhée verte, voire de peau de pu. Que faut-il entendre? Du dégoût, de la honte, de la peur, de la colère, de l'impuissance?
Alors peut-être pour comprendre la force des termes qui sont employés par les locuteurs que j'ai rencontrés sur ces différents territoires, il faut remonter aux années 70-71, vous l'avez mentionné, où le terme de marée verte est construit par analogie avec les marées noires. La première grosse marée noire bretonne qui touche les littoraux de la Manche, c'était 1967, c'est le Torrey Canyon. Et donc, alors on ne sait pas exactement d'où vient ce terme de marée verte, mais en tout cas, il s'impose très très vite, à la fois chez les journalistes locaux du Télégramme et de Ouest-France, et dans la population des riveraines des baies touchées, si vous voulez. Et dans cette première période-là, on ne sait pas exactement à quoi est dû le phénomène. Donc on imagine que c'est quelque chose qui vient du large, comme la marée noire, et on imagine également qu'il s'agit d'une espèce d'algue nouvelle, inconnue, donc à la côte. Au cours des années 1980, les connaissances sur le phénomène vont se préciser. Et à ce moment-là, s'établit une relation désormais bien consolidée avec la modification importante qui a touché l'agriculture en Bretagne et notamment l'intensification des pratiques agricoles qui est allée de pair avec des apports de nutriments importants sur les cultures, nutriments d'origine donc du coup d'effluents animaux, mais également d'apports d'engrais d'origine industrielle. Et donc ces apports de nutriments, phosphates, nitrates, ont été identifiés comme la cause principale du développement des ulves que vous mentionniez également. Et il n'est plus exactement possible de se référer à la marée noire comme unique descripteur ou comme catastrophe de référence de la marée verte, puisque désormais c'est l'ensemble d'une transformation d'un système qu'il faut penser. Et la dénonciation des marées vertes à partir de cette époque-là, finalement, elle va de pair avec une forme de remise en question de l'histoire locale et de dénonciation de l'agriculture productiviste. Et c'est à ce moment-là que ces expressions apparaissent, se diversifient, commencent à cohabiter. Je dirais que c'est un deuxième temps.
Ces plaques d'algues vertes qui s'échouent sur le littoral pourrissent au soleil en dégageant des odeurs pestilentielles. Des odeurs absolument inoffensives, mais si désagréables que les municipalités sont obligées de les faire ramasser.
Coupable de cette prolifération d'algues qui touche toute la Bretagne, l'agriculture intensive, les nitrates en excès dans la terre sont lessivés par les pluies et servent de combustible à l'algue verte. Mais les habitants du littoral accusent aussi les pouvoirs publics d'avoir laissé faire.
Si certains agriculteurs reconnaissent l'existence de mauvaises pratiques, ils mettent aussi en avant leurs efforts, par exemple pour limiter les rejets ou l'utilisation d'engrais responsables des nitrates dans le sol, et à leur tour ils accusent.
J'accepte tout à fait ma part de responsabilité pour le monde agricole. Je réfute le fait que l'agriculture serait le seul responsable.
Trois extraits de reportages qui viennent de chez France Télévisions, issus des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et qui datent successivement de 1986, 1998 et 2004.
Le troisième changement de vocabulaire, c'est la fin des années 2000. C'est le moment de la mise en évidence à partir des travaux de plusieurs associations environnementalistes locales du danger sanitaire associé aux émanations de gaz se dégagent des masses d'algues vertes en décomposition
sur
l'hydrogène sulfuré. Et donc c'est pour ça que je dirais parmi toutes les expressions que vous avez citées, on peut les dater assez précisément. J'ajouterais en ce qui concerne le pot de pu que le pot de pu, je l'associerais plutôt aux habitants, aux responsables politiques et professionnels qui sont mobilisés dans la lutte contre les marées vertes. Un pot de pu, ça veut dire quelque chose qu'il est extrêmement difficile de gérer et qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, eh bien, je dirais, il y a tout un tas de choses indésirables qui viennent avec et dont on pourra peut-être parler.
Christian.
Oui, alors le glissement de marée noire à marée verte est effectivement extrêmement intéressant parce que dans l'idée de marée noire, il y avait au fond un imaginaire assez victimaire. La pauvre Bretagne est victime d'un affreux coupable qui était...
C'est l'alerte dès le début ou très tôt, et de la part des militants des associations de protection de la nature en Bretagne qui se sont engagés dans ce combat-là. Ils ont plutôt eu l'impression d'être très minoritaires sur les territoires sur lesquels ils habitaient. Les choses ont pas mal changé depuis que le danger sanitaire a été mis en évidence pour différentes raisons. La première, moi je dirais, même si je suis assez peu familière des traitements quantitatifs, mais on a quelques notions de démographie derrière. C'est que quand même, c'est une période où l'attractivité de ces territoires se renforce et on voit un afflux de nouvelles populations qui sont beaucoup des gens qui sont d'origine bretonne, voire originaire de ces territoires, qui ont fait leur carrière professionnelle à Paris, à Nantes, dans des grandes villes, et qui reviennent y passer leur retraite et qui ne reconnaissent pas le paysage qu'ils sont venus retrouver et auxquels ils sont très, très attachés. Ils ne reconnaissent pas non plus l'économie qui est derrière, les relations avec les agriculteurs dont ils avaient le souvenir. Et donc, avec cette espèce d'extériorité-intériorité, ils ont à la fois des ressources pour s'exprimer, certain degré d'extériorité qui leur permet cette liberté de parole, des valeurs différentes, une expérience différente, une certaine confiance dans leur capital à tout point de vue, et puis en même temps un vrai attachement au territoire qui les pousse à s'engager. Ça, c'est, je dirais, dans les années 2000, on observe ça très bien. Mais il y a d'autres facteurs, c'est que le danger sanitaire produit un changement chez certains riverains, chez certains habitants, pour qui le désagrément devient une forme d'angoisse, hein, quand même.
On est passé de comme vous dites dans vos textes, de la souillure,
oui,
à la pollution, d'une nuisance visuelle et olfactive, parce que les algues vertes, ça pue,
eh oui,
faut le dire clairement, et à des dangers pour la santé, voire au danger mortel pour les animaux ou pour
les
humains.
C'est ça. Un des militants les plus actifs sur ce registre-là a par ailleurs, a publié un livre intitulé « Les marées vertes tuent ». Tout à fait. Et ce déplacement du côté, je dirais, de la santé publique, de la problématique des marées vertes, a produit de nombreux effets, notamment l'intérêt des médias nationaux et de tout un tas d'acteurs nouveaux qui produisent des discours sur ce phénomène qui auparavant était totalement absent. Ça restait quelque chose de localisé et presque de confidentiel, je dirais, jusqu'à une période relativement récente.
Dans vos travaux, ce qui m'a aussi étonné et intéressé, c'est pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, vous avez rencontré des chercheurs et des scientifiques de la célèbre et la fameuse station de biologie de Roscoff,
oui,
qui fête cette année ses 150 ans. Et des chercheurs disent... Nous, on s'intéresse aux algues rouges, aux algues brunes, je ne sais plus, il y a plein d'autres choses. Mais enfin, les algues vertes, voilà, c'est Ulva, on les connaît. Puis, c'est un peu comme un truc agricole dans l'eau.
Oui, c'est une expression qu'a employé l'un des chercheurs que j'ai interrogé. Alors, peut-être qu'il faut dire, parce que ça donne peut-être une image un peu dépréciative du niveau de concernement de la recherche sur ces sujets-là. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, les phénomènes d'eutrophisation côtière, dont les marées vertes sont l'une des manifestations, l'une des formes, sont très bien connus et documentés par la recherche depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, je dirais. Donc finalement, il n'y a pas de question de recherche active, de front de recherche actif en biologie et en écologie marine et côtière sur ces sujets-là, ce qui explique pourquoi, malgré la densité de la recherche marine en Bretagne, on a eu très très peu de chercheurs qui se soient intéressés à cette question-là qui était finalement furieusement banale. Il n'y avait pas réellement de questions scientifiques, en tout cas en première lecture, attachées à ce problème et à cette apparition des marées vertes. Le fait que très rapidement ce lien avec l'agriculture ait pu être fait dans les années 80 a renforcé cela, puisque finalement la résolution du problème se passe à terre. Il ne se passe pas en mer. Et donc ce sont d'autres communautés de recherche qui sont concernées par la prise en charge de ce phénomène. Et au premier rang desquels, évidemment, les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur les systèmes agricoles et sur les écosystèmes anthropisés que sont les agrosystèmes. Donc des agronomes, des hydrologues, des hydrogéologues.
Les éleveurs de porcs et de bovins, qui sont, parce que souvent on associe la prolifération des algues vertes à l'élevage porcin, mais c'est beaucoup aussi l'élevage bovin qui est concerné, s'en sont pris plein la figure. Enfin, ils ont été, il y a une remise en cause du système productiviste, de leurs pratiques, une dénonciation de leurs pratiques, des manifestations de protestation, etc. Et vous avez analysé la manière dont ils se sont réappropriés l'espace médiatique et comment, au fil des années, leur discours et leurs actions ont évolué.
Oui, alors lorsqu'on aborde ces sujets, il y a peut-être deux distinctions importantes à faire. Et je pense qu'il faut bien distinguer les agriculteurs de leurs représentants. qu'ils soient des représentants politiques ou des représentants des grandes industries agroalimentaires qui sont accueillies sur ce territoire.
Et de leurs syndicats.
Alors voilà, ce que j'appelle la représentation politique et que je devrais appeler la représentation syndicale, donc la représentance socio-professionnelle. Et puis une autre distinction à faire, c'est évidemment entre les agriculteurs qui sont pris dans le système majoritaire, hein, qui est l'agriculture conventionnelle, et notamment des filières d'élevage très intégrées, et puis d'autres agriculteurs qui pratiquent des systèmes finalement assez variés, mais qu'on entend moins, parce que je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs le savent, mais l'ensemble des organismes consulaires agricoles en Bretagne sont dirigés, donc leurs représentants élus sont des élus de la FNSEA, ou des syndicats affiliés. Et donc c'est plutôt leurs paroles que l'on entend, et c'est plutôt eux qu'on va retrouver dans les forums, les arènes publiques dans lesquelles on va prendre en charge ce problème avec l'État, les collectivités, l'agence de l'eau, etc. Mais il y a évidemment une très grande diversité de visions et de paroles agricoles qu'on peut entendre quand on se rapproche d'un peu plus près. Donc ces précautions étant prises, il est vrai que la couverture médiatique très importante qui a été déclenchée par cette alerte sanitaire, donc à partir de 2008 et plus encore en 2009 après le décès d'un cheval et l'hospitalisation de son cavalier donc en baie de Lannion, donc cette pression médiatique a suscité de fortes interrogations dans le monde agricole. Alors, la distance qui prévalait auparavant en se disant bon ben voilà, c'est encore un avatar de la pression que nous mettent les associations environnementalistes et du coup il faut allumer des contre-feux médiatiques et puis ben parfois c'est la guerre entre les écolos et les agriculteurs et puis ce n'est qu'un des visages de cette guerre. Ça pouvait plus vraiment être traité comme ça vu l'ampleur qu'avait prise le problème des marées vertes dans l'espace public. Et donc à ce moment-là, bien il y a eu plusieurs stratégies, mais un peu heurtées et un peu difficiles du côté du monde agricole. Certains étaient pour la chaise vide, c'est-à-dire finalement se retirer complètement de l'espace public et de l'espace médiatique. D'autres étaient plus pour des stratégies plus offensives. Et donc il y a eu des campagnes de publicité qui mettaient beaucoup en avant la personne des éleveurs, l'incarnation de la profession, leur sérieux, leur professionnalisme, le fait que ce ne sont pas des pollueurs, mais des entrepreneurs responsables, éduqués, etc.
Ceux qui nous font manger.
Ceux qui nous font manger, bien sûr, avec ce discours-là qui est
une figure un peu héroïque à ce moment-là.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et qui ne sont pas aimés.
Et qui sont mal aimés, alors que finalement ils absorbent une partie des contradictions de la société, à savoir le fait de vouloir manger bon et pas cher, tout en protégeant l'environnement. Et puis, il y a eu également, sur les baies les plus touchées, des moments un peu de cristallisation des oppositions par l'organisation systématique de contre-manifestations à des mobilisations plutôt initiées par des associations environnementalistes, donc qui n'étaient pas des mobilisations pro-marée verte, mais qui étaient des mobilisations pour dire... On veut vivre et travailler au pays. Donc ça, ce sont des vieux mots d'ordre des années 70-1980, mais qui ont été réinvestis pour l'occasion. L'idée étant de dire notre légitimité à nous, notre capital d'autochtonie est plus fort que ces boomers, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais que ces boomers qui reviennent de la ville et qui prétendent, sans connaître grand-chose de la façon dont nos territoires vivent, qui prétendent nous dicter la façon dont l'agriculture et les exploitations doivent être gérées.
Dans la série des contre-attaques, comme vous dites, spectaculaires, je me souviens de ce match de foot
à Morieux,
donc dans la baie de Saint-Brieuc, sur une plage couverte d'algues vertes, d'agriculteurs vraiment en petite tenue, de mémoire torse nu, et faisant un match de foot. Il y avait peut-être même des élus qui ont participé à...
Oui, tout à fait, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Oui.
On se réapproprie la plage et il y a un danger, mais non, il n'y a pas de danger. Il est où le danger?
Oui, alors derrière cela, on retrouve aussi quelque chose d'assez viriliste, hein, c'est-à-dire finalement, qui a peur de ces petites choses-là, ces pas nous. Et c'est vrai que pour les habitants du littoral, pour une bonne partie d'entre eux, finalement, ils ont, et c'est le titre de ma thèse, ils ont vécu avec les marées vertes plusieurs dizaines d'années avant que ce danger soit mis en évidence. Et certains en avaient même complètement conscience. C'est-à-dire, ils se disaient, bon, bah, quand il n'y en a pas beaucoup, quand c'est frais, ça va. On fait l'expérience des odeurs. Ces odeurs, on les connaît. Elles sont associées à des processus de fermentation. Qui est l'idiot qui va aller s'y coller? Donc nous, on s'en tient à l'écart, on sait gérer, on sait faire avec. Voilà. Donc cette idée de dire qu'on maîtrise ce danger-là par la connaissance du territoire et du milieu était très forte et a été mise en scène au moment de ce match de football à Morieux. Mais l'autre dimension à avoir en tête, je pense, c'est que ce type de manifestation est configuré pour la médiatisation. C'est-à-dire qu'il y avait au moins autant de joueurs de football que de journalistes sur la plage.
Christian.
Oui, ce qui est très passionnant, évidemment, c'est les jeux de changement d'échelle, puisque en permanence, sur ces dossiers, on navigue de l'hyperlocalisé, puisque ça peut être une plage à Douarnenez et pas la plage d'à côté, voilà, avec toute une série de réflexions sur voilà, qui est maître de la plage, qui a droit d'en parler, qui a droit de s'y intéresser, de se l'approprier, etc. Jusqu'au stade d'une médiatisation presque hors sol, où les grands médias nationaux vont s'intéresser à la Bretagne en disant qu'est-ce qui s'y passe, marée verte, etc., algues invasives, bon. Et ce va-et-vient est très passionnant, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur l'autochtonie, sur les acteurs qui réussissent à argumenter en disant ce territoire nous appartient. Alors ça renvoie aussi à vos travaux sur la plage d'une façon générale, mais qui est socialement habilité à parler des algues vertes, à parler de l'espace littoral, ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, incitait presque à penser. Ces gens disent, finiraient presque par dire, c'est nos algues vertes, on sait les gérer, on sait faire avec. Qu'est-ce que c'est que ces bobos parisiens qui viennent construire une cathédrale sur un cheval mort. Enfin voilà. Et donc, c'est cette tension qui est très passionnante, et que la posture compréhensive de l'entretien, parce que je crois qu'il faut le dire, c'est très important, le fait de faire des entretiens avec tous les acteurs du projet, y compris ceux qui sont un peu les boucs émissaires dans cette affaire, ça permet d'avoir vraiment tous les points de vue, quoi.
Oui, c'est exact, c'est important de le souligner, c'est-à-dire cette suspension du jugement qu'on essaye d'avoir, évidemment on n'y parvient jamais complètement, mais qu'on essaye d'avoir lorsqu'on s'intéresse de façon égale à un éleveur de porc, un militant écolo, un journaliste ou une journaliste, un ou une élue, est très utile pour faire émerger et de la compréhension, de l'intelligibilité de cette situation-là. Et sur des sujets comme celui-là, qui a priori, vu de l'extérieur, apparaissent, et ça a pu être qualifié comme ça, comme des scandales, ça permet aussi de déconstruire un petit peu cette image d'un scandale qu'on découvre et que peut-être des gens auraient voulu cacher pendant un certain temps, en fait, ce qui n'est pas le cas.
Oui, puis l'enjeu, c'est le retournement de l'image des agriculteurs dits conventionnels, dont on commence à dire, depuis quelques années déjà, je pense à un ensemble de films, etc., qu'ils sont eux-mêmes les victimes, qui ne sont pas les acteurs de leur turpitude, si j'ose dire, mais qu'ils sont eux-mêmes les victimes de tout un système qui les incite à faire, ce qu'ils font.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la marge de manœuvre des agriculteurs en général dans la conduite de leur exploitation, lorsqu'ils sont en conventionnel, est extrêmement faible. Ça ne les empêche pas de développer un savoir-faire et un attachement à leur indépendance extrêmement fort, qu'ils revendiquent, et donc la plupart d'entre eux refusent qu'on leur attribue le statut de victime. Cette qualification leur paraît condescendante, parce que eux se vivent comme des chefs d'entreprise qui ont à faire face à des responsabilités considérables au quotidien, et donc quand on essaye d'une certaine façon de leur accoler ce qualificatif, la plupart d'entre eux le récusent. Et c'est l'une des difficultés de communication récurrente entre des militants associatifs qui sont bien intentionnés et qui, pour une majorité d'entre eux, font cette distinction que vous rappeliez, Christian, c'est-à-dire que les agriculteurs sont au moins autant victime que responsable. C'est l'une des raisons de l'incompréhension répétée que moi j'observe sur le terrain, parce que les agriculteurs refusent d'être considérés comme des victimes.
Ce qui du coup veut dire qu'ils assument les...
Ce qui les conduit à effectivement adopter des postures qui à la fois les obligent à assumer, alors qu'ils savent très bien que ce qu'ils vivent leur échappe complètement, en fait. Et par ailleurs, la plupart d'entre eux ont vécu des transformations très importantes dans la conduite de leurs exploitations ces 25 dernières années et ne travaillent pas du tout comme ils le faisaient au début de leur carrière. Donc ils ont l'impression que les exigences qu'ils s'appliquent à eux-mêmes et que la société leur fait porter ne sont pas du tout... également répartis dans la population.
Les accusations, c'est pas plaisant à entendre. L'élevage intensif de porc est la seule cause des algues vertes, c'est pas vrai, quoi. Qu'on arrête de stigmatiser des choses, quoi.
L'agricultrice estime faire des efforts pour améliorer ses pratiques.
Ici, nous sommes dans une parcelle de luzerne qu'on a implantée en 2013 dans le cadre du plan Algues Vertes. La luzerne a la particularité d'être une culture pérenne, en fait. Elle est distribuée tous les jours aux vaches. Donc c'est une culture qui n'a pas besoin de fertilisation azotée.
Extrait de l'émission Regards sur Arte, consacré le 20 février 2020 au sujet des algues vertes et d'un littoral empoisonné.
C'est beaucoup le discours qu'on entend toutes ces dernières années. Ce souci de faire mieux, disent-ils, bien aidé par beaucoup de subventions, ils le disent parfois un peu moins, ou ils oublient de les chiffrer quand ils en parlent, et toute cette figure de « on a fait des progrès, on fait des efforts », et le discours qu'on entend quand même souvent, c'est « mais tout ne peut pas se faire en un jour ». Là, dans l'actualité... je lisais concernant la COP 27, ce grand rendez-vous international sur le climat et l'environnement, en ce moment en Égypte. C'est la première fois que les participants et participantes d'une COP s'intéressent autant à l'agriculture, aux modes d'élevage, d'alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Et... dans un texte, les agriculteurs sont présentés comme les gardiens de la terre. Donc avec les responsabilités environnementales, évidemment, qui leur incombent. Autre actualité, on se rend compte à quel point le sujet algues vertes reste extrêmement sensible dans notre région, la Bretagne. En septembre, dans les Côtes d'Armor, il y a eu le tournage du film de Pierre Jolivet, d'après l'enquête et la fameuse bande dessinée d'Inès Leroux, Algues vertes, l'histoire interdite. Ça a été un tournage un peu polémique, et des maires de petites communes, certains, pas tous hein, bien sûr, ont dit qu'ils ne feraient rien pour favoriser un film qui donne, je cite, une si mauvaise image de la Bretagne, agribashing, etc., etc. Ça, c'était il y a 2 mois. Bien plus récemment, le 27 octobre, ici à Rennes, une audience devant le tribunal administratif qui concerne l'affaire Jean-René Auffray. Ce jogger de 50 ans est décédé après un footing sur les grèves d'Ilion.
Ça devait être en 2015, je dirais.
Sa famille porte plainte contre l'État, contre les communautés de communes, etc. Est-ce que ce monsieur... a été victime d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré ou d'un arrêt cardiaque, et le tribunal administratif de Rennes doit rendre sa décision là, oui, dans quelques jours, fin novembre.
Oui, tout à fait.
Et ce sera évidemment une décision extrêmement importante dans le dossier algues vertes. Et dernière chose, qui a aussi un rapport avec l'agriculture, le 9 novembre, aux grandes dames de plusieurs associations du Léon, le préfet du Finistère a signé l'arrêté qui régularise l'extension d'une porcherie de 12 000 cochons à Landuvez, qui compte 1 500 habitants. On est en plein dans le débat. Alors, est-ce que vous pensez qu'il peut encore exister des passerelles possibles de dialogue, d'action entre eux pour faire vraiment de manière caricaturale, entre les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement.
Alors, tous les événements que vous citez reflètent cette dense actualité, mais qui, moi je dirais, on a l'impression qu'elle se densifie, peut-être qu'on y est plus attentif aujourd'hui, mais quand on travaille à partir des archives de presse ou des archives communales, comme moi je le fais volontiers, on se rend compte que pratiquement on avait à peu près les mêmes débats ou les mêmes choses depuis les années 70-80. Il n'y a pas tant de changements que cela dans les sujets qui sont abordés. Je mettrai évidemment de côté le procès que vous venez d'évoquer, puisque là on l'a vu, c'est d'apparition plus récente, mais la jurisprudence et les recours sur tout un tas de sujets liés à l'agriculture et en particulier à ces dommages environnementaux, c'est quelque chose de très ancien et de très densément fourni aujourd'hui en Bretagne.
Mais c'était quoi alors? C'était pas les algues vertes à l'époque?
Alors beaucoup le contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, donc des cas comme celui de Landunvest que vous avez cité. Évidemment, il y a des changements d'échelle, c'est-à-dire qu'on était sur des unités porcines souvent de moins grande taille, parce que cette accélération, ce gigantisme se poursuit. Mais sur le type de contentieux, le type d'argument, le type de requérant, le type de défendeur, on était sur la même structure et on était aussi, depuis très longtemps, sur les mêmes structures argumentatives en fait. Hein. Donc ça peut-être, ce serait un petit point de nuance, c'est-à-dire que l'actualité sur ces sujets-là est très fournie, au moins depuis la directive nitrate de 1991, on a tout cela, avec notamment l'association Eau et Rivières de Bretagne qui est extrêmement vigilante là-dessus et qui n'hésite pas à aller au contentieux sur quantité de sujets, et notamment les extensions d'élevage. Le deuxième élément, vous parliez du tournage, vous parliez de la petite commune de Landunvez, et à chaque fois, il y a une figure derrière, c'est la figure de l'élu local, élu d'une petite commune, qui en général, tant que moi j'en ai interviewé beaucoup et je leur ai consacré quelques travaux, où je les ai nommés des fragiles médiateurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une diversité de sensibilités, très peu de leviers d'action, peu de leviers d'action foncière, très peu de leviers d'action pour faire vivre la démocratie locale, agir sur la qualité de l'eau, etc. Et qui, en revanche, ont des responsabilités importantes et constituent l'interlocuteur ou l'interlocutrice de premier niveau pour les citoyens, les habitants de la commune. Ces personnes-là, généralement, c'est elles qui vont me parler de pot de pu. C'est-à-dire, elles savent que quand il y a quelque chose qui s'approche, qui risquerait de ressembler à une médiatisation, à l'arrivée d'un chercheur ou d'un journaliste extérieur, etc., elles savent que ça va générer des conséquences imprévisibles, erratiques, problématiques, et que ça va leur retomber dessus pour parler un langage assez commun. Donc moi, je dirais que leur réaction, moi, elle ne me surprend pas du tout. Je pense même qu'il est tout à fait possible de rencontrer des maires de sensibilité écologiste, par exemple, qui pourraient essayer d'éviter qu'un tel tournage ait lieu sur leur commune. Et donc voilà, moi ce que je trouve que ce que ça met en avant, c'est la difficulté quotidienne dans laquelle sont les habitants pour essayer de faire vivre toutes ces personnes ensemble et les faibles leviers dont ils disposent pour faire dialoguer des portions de la population, et ça rejoint votre question de sensibilité aujourd'hui très différente. En gros, dans la période que l'on connaît, on ne pourrait pas dire il y a les écolos d'un côté, les agriculteurs de l'autre. Moi, je dirais plutôt, il y a une partie de la population qui a une familiarité et des attachements forts avec la ruralité et le monde agricole. Et puis, il y a des nouveaux habitants qui ont des attentes différentes vis-à-vis du territoire, vis-à-vis des élus et vis-à-vis du voisinage. Et c'est ça qu'ont à gérer les élus des petites communes littorales et rurales, ce qui explique leur position souvent ambivalente, c'est-à-dire à la fois l'envie de dénoncer, et l'envie de surtout passer entre les gouttes et de passer inaperçu.
Et peut-être aussi la crainte que des acteurs extérieurs, en particulier les médias, viennent mettre leur nez dans les affaires locales.
Les médias n'ont jamais inventé les algues vertes, il suffit de se baisser pour les ramasser sur les plages.
Oui,
quand même.
Mais à partir du moment où tu as une médiatisation, tu as une cristallisation
Il ne faut pas dire qu'il y a des algues vertes.
Tu as des attributions de responsabilité et tu as les bons et les méchants. Enfin, voilà, et c'est ça que les élus veulent éviter.
Je comprends bien le côté élu et office du tourisme.
Oui.
Mais dans la réalité, y compris les riverains, je ne connais pas de riverains qui soient contents d'avoir une immensité d'algues vertes sous leur fenêtre.
Non, c'est vrai, bien sûr. Peut-être que ces riverains-là, justement, c'est là où une approche un peu sociologique en matière d'environnement nous aide à comprendre pourquoi la solidarité vis-à-vis de ces riverains joue moins localement que la solidarité vis-à-vis des agriculteurs et de l'arrière-pays. Parce que ces fronts de mer qui sont plus ou moins construits, c'est-à-dire qu'on a quand même là dans les... Alors je mets de côté la baie de Saint-Brieuc qui est dans une configuration un petit peu différente, mais on a des baies, pour la plupart, qui ont un cordon dunaire, qui ont des espaces naturels en arrière-plage, et où il y a assez peu de résidences habitées à l'année. Et donc les résidences secondaires qui sont là, ne sont pas forcément habités par des nantis, des milliardaires, etc. Mais souvent par des gens qui sont peut-être considérés localement comme plus privilégiés ou moins implantés localement. Donc ça peut jouer.
Nous faisons une pause musicale. C'est le groupe Beth of Bedlam qui va nous interpréter Red Seaweed.
In my courtyard, a fountain leaves. Take a
Red Seaweeds par Bess of Bedlam sur Canal B. Vous écoutez Chercheurs en Ville, émission consacrée à la recherche universitaire. Et aujourd'hui, notre invité est Alix Levin, anthropologue de l'environnement, chargée de recherche CNRS à Brest, au sein du laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. En première partie d'émission, il était question des algues vertes et des positionnements des acteurs que sont les agriculteurs, les associations environnementalistes, mais aussi les élus locaux. À présent, on va rester sur la plage pour parler ramassage, changement climatique et même gilets jaunes.
Alix Levin, les plages avec les algues vertes, faut-il les ramasser? Faut-il les laisser? Et cette question pose plus largement tous les débats. Qu'est-ce qu'on doit laisser sur une plage? Est-ce qu'on doit privilégier une gestion dite écologique ou une gestion touristique?
Alors, peut-être que les algues vertes sont un bon point de départ pour évoquer ces tensions qui peuvent traverser la gestion de ces milieux que sont les plages, et en particulier en Bretagne, puisque c'est quand même ici que je travaille principalement. Alors, les algues vertes, faut-il ou pas les laisser? La question, je dirais, est résolue désormais par la réglementation qui oblige les collectivités locales à ramasser les marées vertes autant que faire se peut dans les 48 heures qui suivent leur échouement. Je dirais qu'aujourd'hui, même une petite quantité d'algues vertes qui n'est pas susceptible de générer un danger n'est plus acceptable socialement, donc le ramassage est très systématique. Évidemment, le ramassage, il n'est pas sans conséquences pour le milieu. Et même si les études méritent encore, je pense, d'être un petit peu approfondies, on ne saurait pas dire aujourd'hui s'il est plus mauvais pour le milieu de les laisser ou de les ramasser. Il est vraisemblablement plus mauvais de les ramasser.
Parce que le ramassage se fait avec des tracteurs.
Le ramassage se fait à l'aide d'engins mécaniques. Alors évidemment, les techniques progressent avec le temps, mais néanmoins, on ramasse toujours une couche de sable et on ramasse avec les algues vertes également d'autres algues, puisque les échouages ne sont pas systématiquement monospécifiques. Et donc, suivant les plages et les milieux sur lesquels on est, évidemment, les milieux vont réagir différemment et potentiellement être fortement affectés par ces pratiques. Le ramassage systématique et indifférencié qui a pu se pratiquer à certaines époques ne se pratique plus aujourd'hui, dès lors que ce ne sont pas les marées vertes qui dominent dans le paysage de la laisse de mer. C'est sans doute une très bonne chose, puisque aujourd'hui, on a des plages qui sont gérées en prenant en considération le fait qu'il s'agit de milieux vivants. Les laisses de mer sont considérées comme des habitats d'intérêt communautaire depuis la fin des années 2000, et donc sont protégées. C'est quoi la laisse de mer? Eh bien, ce sont l'ensemble des matières que la mer, que les marées déposent sur les estrants, les côtes basses, que sont les plages, donc les estrants qui peuvent être sableux ou limoneux, vaseux. Voilà, c'est ce qu'on appelle les laisses de mer. Elles sont très importantes en Bretagne et elles font partie presque de l'image de marque, on va dire, des littoraux bretons. Et cependant, lors de la saison touristique, pendant plusieurs dizaines d'années, le ramassage de ces laisses de mer a été systématique, puisqu'il était estimé dans un certain nombre de sphères que c'était incompatible avec la fréquentation touristique. On n'en est plus là aujourd'hui, même si ce type de pratique perdure dans un certain nombre de contextes, qui sont des contextes de plages urbaines ou très touristiques, qui sont finalement aujourd'hui des espaces qui sont des espaces récréatifs, mais qu'on ne pourrait plus qualifier vraiment de milieux naturels vivants, puisque le continuum entre la plage et l'arrière-plage n'est plus assuré. Ce sont des lieux qui sont très fortement artificialisés et qui connaissent une surfréquentation humaine importante, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un travail sur lequel on s'est penché depuis quelques années, parce qu'il y avait assez peu d'éléments de connaissance là-dessus, et on a pu observer cette transformation des pratiques, mais aussi toutes les tensions locales qui vont avec l'évolution de ces pratiques de gestion. Alors, lorsqu'il y a des marées vertes, je dirais que finalement tout le monde est d'accord et personne ne se dit qu'il faut les laisser. Aujourd'hui, c'est un débat qui est un peu derrière nous. Cependant, dès lors que d'autres échouages massifs peuvent arriver qui ne sont pas des marées vertes, mais qui peuvent générer des odeurs, qui peuvent générer une gêne, etc. Là, pour le coup, les municipalités qui tentent de limiter le ramassage des laisses de mer se heurtent parfois à de très très fortes résistances.
comment les régions littorales envisagent-elles l'avenir avec l'érosion côtière et les risques d'inondation dus au changement climatique? Là aussi, faut-il laisser faire ou intervenir, et comment?
J'ai envie de vous faire un peu la même réponse, c'est-à-dire que ce sont des domaines et des dimensions qui à la fois dépassent un petit peu les possibilités d'intervention des niveaux les plus locaux d'administration et qui en même temps s'imposent assez fortement du fait de la conjonction d'un ensemble de paramètres qui se construisent également à l'échelle planétaire. Donc la question c'est plutôt comment on accompagne ces mouvements-là que plutôt faut-il ou faut-il ne pas. Évidemment, il y a encore des porteurs d'enjeux qui défendent des solutions dures d'aménagement du littoral, de l'endiguement, de l'enrochement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même quelque chose qui se diffuse assez largement. On sait que ces solutions-là n'en sont pas. C'est-à-dire que en empêchant ces mouvements-là, on est sur des milieux instables, précaires, en mouvement permanent. En empêchant ces mouvements-là, on transpose sur un autre endroit du littoral le problème. Si ça s'accumule quelque part, c'est bien qu'ailleurs, il y a quelque chose qui s'en va. Donc, en fait, cette approche un petit peu du continuum à la fois latéral et longitudinal du littoral, il faut l'appréhender dans son épaisseur, mais aussi dans sa latéralité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se diffuse et qui occupe beaucoup les gestionnaires locaux. Donc, faut-il ou pas, je dirais, comment peut-on accompagner? Et sur cet accompagnement-là, on sait et on a conscience de plus en plus que finalement, la connaissance des mouvements naturel et le meilleur allié, je dirais, de la gestion de ces évolutions qui sont très rapides, en fait.
Christian Lebar.
Oui, ce qui est très frappant en vous écoutant, en vous lisant, c'est à quel point cet espace littoral, qui a très longtemps dans l'histoire été considéré comme une espèce de non-lieu, comme un territoire résiduel, insignifiant, etc., une espèce de zone frontière entre la terre et la mer, etc., comment ces espaces sont aujourd'hui surchargés, y compris symboliquement, comment les conflits d'usage sont quand même ultra-violents. Hein,
ça peut l'être.
Comment ça condense en fait toute une série de contradictions, de telle sorte que ça n'est plus l'affaire des... Bon, c'est un espace public par hypothèse, mais ça n'est plus l'affaire des riverains, hein, dont vous rappelez lier la place tout à l'heure, mais c'est un peu l'affaire de tous, quoi. Hein. Il y a une espèce d'appropriation collective dont la médiatisation témoigne aussi. On a un peu parlé des professionnels du tourisme, ils sont présents, élus sont à leur écoute, j'imagine.
Oui, bien sûr. Pendant très longtemps, je pense à l'un des territoires sur lequel j'ai travaillé, qui est la baie de la Forêt-Fouesnant, donc c'est Concarneau, Fouesnant, donc le sud Finistère, qui s'appelle elle-même, enfin le label touristique, c'est la Riviera bretonne. Sur ce territoire-là, la préoccupation touristique, elle était très explicite dans tout un tas de débats qui ont pu avoir lieu localement. L'agriculture s'était déjà plus ou moins retirée derrière. Donc pour les communes littorales, l'enjeu était vraiment effectivement que les maux font plus de mal que la chose. La marée verte peut être gérée, la laisse de mer peut être gérée. En revanche, ce qu'en disent les gens... ne peut pas être contrôlé. Et donc, il faut plutôt avoir une stratégie de communication qui est plutôt de l'ordre de la discrétion, etc., et une très grande efficacité logistique et opérationnelle pour pouvoir assurer le devenir du territoire en termes de développement économique, et l'économie touristique étant évidemment le potentiel... pas toujours complètement réalisé à la hauteur des attentes, voire j'allais dire peut-être même jamais, mais en tout cas, ce sur quoi on compte pour faire advenir un développement local. Et donc c'est une dimension qui est extrêmement présente dans un certain nombre de stations balnéaires qui sont aujourd'hui finalement le cœur d'une partie des villes moyennes bretonnes. Qui sont des
on parlait de Douarnenez tout à l'heure.
On parle de Douarnenez, on peut parler de Concarneau, des villes comme ça. Ce sont des villes qui se sont construites ou reconstruites. Si on parle de Douarnenez et de Concarneau, c'est des villes qui ont été sinistrées, qui étaient centrées sur la pêche et qui se sont reconstruites avec un tourisme, mais qui n'est pas un tourisme uniquement de vacanciers, qui est une résidentialisation littorale, qui les place finalement parmi les communes qui aujourd'hui sont les plus attractives. Donc finalement, cette économie touristique, elle s'hybride avec une attractivité plus globale des littoraux. Les géographes appellent ça la littoralisation. Et on est sur des communes qui sont finalement aujourd'hui des communes urbaines, rattachées à des grands pôles urbains, avec une urbanisation quasi continue. qui, entre Quimper par exemple et Concarneau, ou entre Douarnenez et Concarneau, c'est un bon exemple. Ça pose la question finalement, pour rejoindre votre remarque Christian, ça pose la question de l'épaisseur du littoral, je le mentionnais tout à l'heure, et finalement jusqu'où va la mer ? La mer n'est plus une affaire de résidents d'une étroite bande côtière. La mer est une affaire aujourd'hui qui concerne l'ensemble de celles et ceux qui résident et y travaillent, parfois dans les services, parfois dans des économies qui ne sont pas inféodées a priori au littoral, et de moins en moins qui relèvent du secteur primaire, et puis aussi de gens qui y sont attachés, y compris pour une présence pendulaire plus épisodique ou symbolique.
Ce que vous appeliez le concernement tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Concerné. Et bonjour.
Alors cette semaine, on t'embarque avec nous à la découverte du GR34.
On va parcourir la côte nord de la Bretagne à pied, mais aussi sur la mer. Allez, c'est parti. C'est vraiment impressionnant la côte ici, parce que il y a des sortes de falaises qui tombent vers la mer. Et au loin, on voit le Verdelet. Et cet après-midi, on va faire une balade au bord de la mer pour aller découvrir les algues, et notamment les algues à manger.
Oh, c'est incroyable ! Ça ressemble vraiment à un raisin.
La région Bretagne, sur sa page YouTube Tourisme, fait appel à des blogueurs pour promouvoir l'image de la région, là, lors d'une vidéo qui a été publiée au mois de juin.
Un des axes de recherche que vous avez privilégié et qui m'a semblé, sur le moment, très inattendu, c'est votre travail sur le mouvement des Gilets jaunes et leur participation, leur contribution parfois à des luttes justement de protection de l'environnement. Parce qu'on n'associe pas forcément les Gilets jaunes à la défense de l'environnement.
Oui, eh bien je dirais, Colette, que votre surprise était un peu la mienne aussi. lorsque le mouvement des Gilets jaunes fait irruption dans l'espace public le 17 novembre 2018, à cette époque, moi je ne m'intéresse pas particulièrement, je ne suis pas une spécialiste des mouvements sociaux. Je ne l'ai pas vraiment vu arriver, mais j'enquête dans la campagne finistérienne, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et je les vois tous arriver. Alors j'avais suivi le mouvement des Bonnets Rouges en 2013, et je retrouve des figures des Bonnets Rouges, je retrouve des gens que je connais, mais que je ne m'attendais pas à trouver là. Je cherche les paysans, je ne les trouve pas. Je cherche les pêcheurs, je ne les trouve pas. Par contre, je retrouve certains militants environnementalistes que je connais pour leur engagement au sein d'Eau et Rivière ou de Bretagne Vivante. Je retrouve également pas mal de femmes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger, et qui sont plutôt des professionnels du soin. Je retrouve tout un tas de gens, soit que je m'attendais pas à trouver là, à vrai dire, soit qui me livrent à cette occasion-là des discours que je n'avais pas entendus auparavant. Et comme en me mettant en relation avec toutes les communautés de recherche en sciences sociales, sociologie, sciences politiques, qui s'intéressent tout de suite évidemment à ce mouvement-là, je m'aperçois que personne ne suit ça par chez nous. Et donc je me porte volontaire pour aller enquêter auprès des Gilets jaunes. C'est tout simplement comme ça que ça s'est produit. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu personne. Je me suis dit, bon, faut y aller là, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Simplement, ma question, elle est vite revenue à mon centre d'intérêt habituel, qui est finalement, tous ces gens ne sont pas, de la vision que j'en ai, des anti-écolos notoires, mais pour autant, ils se mobilisent, comme ça avait été le cas, je ne sais pas si vous en souvenez, au moment des Bonnets Rouges, contre la mise en place d'une fiscalité écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut interpréter ça? Et est-ce que les Gilets jaunes sont anti-écolos? Je savais qu'au moins une partie d'entre eux, pour les connaître, ne l'était pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux et à me poser la question de qu'est-ce que c'est être écolo aujourd'hui, lorsqu'on est artisan, lorsqu'on est précaire, lorsqu'on est dans des situations compliquées et qu'on est dépendant de sa voiture. Voilà, donc je ne suis pas la seule évidemment à travailler sur ces sujets, on est de plus en plus nombreux, mais c'est voilà ce qui m'a attiré vers ce sujet.
Christian.
Alors ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il est, comme on le soulignait tout à l'heure, très, très contre-intuitif, parce que c'est vrai que dans le discours national des Gilets jaunes, les questions d'environnement sont absentes d'une façon générale, elles ne sont pas du tout mises à l'agenda, ce qui ne veut rien dire effectivement, j'entends bien, hein, que ça ne veut rien dire de ce que les gens pensent, mais en tout cas, ça ne fait pas partie des thèmes qui ont émergé, donc est-ce qu'il y a une singularité régionale ? C'est pas impossible quand même, ou locale, ou est-ce que tout simplement, ben, c'est la logique de la mise à l'agenda des questions de priorité qui a fait que, etc. Mais je suis enfin, tout à fait prêt à entendre que la catégorie écolo est devenue très compliquée à manipuler. Je pense au mouvement d'opposition aux éoliennes, par exemple. On ne sait pas du tout comment classer ces gens qui, au nom de la défense du paysage et, entre guillemets, d'une certaine écologie, s'oppose à l'installation d'éoliennes, avec parfois des arguments qu'il faut entendre. Voilà, enfin, ça devient très très compliqué.
Et oui, c'est très très compliqué. Alors, pour répondre à votre première question, je dirais qu'il y a des singularités régionales qui sont liées à la référence à un certain nombre de luttes plus ou moins anciennes, qui sont mobilisées dans les entretiens que je fais. Encore hier, voilà, comme Plogoff, par exemple, hein, toutes ces résistances-là qui datent, mais dont certains protagonistes du mouvement des Gilets jaunes se réclament, donc qui sont du coup ancrés dans un rejet des décisions centralisées qui s'appliquent à des régions périphériques, au nom de principes un peu hors sol, vous utilisiez cette expression tout à l'heure. Il y a des singularités régionales, mais mes collègues observent dans tout un tas d'autres contextes également des dynamiques assez singulières dans le mouvement des Gilets jaunes, avec une mise à l'agenda à partir de quelques semaines de mouvement, des questions environnementales et des alliances hein, qui se construisent avec des militants écologistes. Alors c'est un travail d'articulation qui est parfois avorté, parfois très abouti, autour des questions d'alimentation, de relocalisation d'alimentation.
Via les femmes ?
En particulier, de relocalisation de l'alimentation, de soins aux autres qu'humains, etc., etc. Donc on observe ces dynamiques-là, et évidemment il y a un travail derrière aussi militant, d'articulation des causes, qui est notamment fourni par une partie des mouvements de gauche, je pense à une partie des syndicalistes, le syndicat Sud, Solidaire, a beaucoup œuvré pour articuler fin du monde et fin de mois, et la France insoumise, évidemment, dont ça a été l'un des slogans pendant le mouvement.
Peut-être... Si on a le temps, une toute dernière question. Votre travail d'anthropologue vous amène à échanger avec tous les acteurs, de quoi qu'ils pensent, et donc des acteurs qui parfois ne sont pas d'accord, voire s'affrontent. Comment l'anthropologue est-elle reçue par les... Est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile ? Est-ce qu'il y a des refus d'entretien ou des
C'est extrêmement rare, je dirais. C'est extrêmement rare. La seule période difficile pour moi, c'était le tout début du mouvement des Gilets jaunes. Sur les marées vertes, j'ai jamais eu de difficultés. Simplement, parfois, quand je me tourne, par exemple, vers les grandes coopératives, etc., on me renvoie vers le responsable de la communication ou des relations publiques, etc. Ouais. J'ai du mal à atteindre, en fait, certains interlocuteurs, mais j'ai jamais de refus. Plutôt des réorientations de circonstances. Et puis sur le terrain, on va dire au quotidien, sur les territoires, pratiquement jamais. Ça se compte sur les doigts de la main en 12 ans de recherche. En revanche, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait une très très grande méfiance vis-à-vis à la fois des journalistes et des renseignements généraux, c'est comme ça que, même si ça s'appelle plus comme ça, c'est comme ça que les gens les nomment, qui faisait que dès lors qu'on était dans une position d'enquêteur ou d'enquêtrice, il y avait une mise à distance qui pouvait être très brutale. Ce qui n'a pas duré très longtemps, hein. Ça a duré 2-3 semaines, et puis après, j'ai plus jamais eu aucun refus du côté des Gilets jaunes.
Et des réactions à vos publications ?
Alors ça, c'est plus compliqué. Généralement, elles sont... Alors, je pense que mes publications sont très peu lues. Quand même, il faut quand même rappeler ça toujours. C'est plutôt des interviews, des expressions un peu plus accessibles sur lesquelles il y a des réactions qui sont souvent positives. J'ai eu une difficulté importante avec un lobbyiste manifestement rémunéré par des grandes entreprises agroalimentaires. Et je ne suis pas la seule, c'est quelqu'un qui est bien connu. Voilà, mais sinon, non, moi je me sens plutôt très libre dans mon expression et plutôt encouragée à revenir.
Alix Levin, on vous remercie merci infiniment. Et on donne rendez-vous à tous nos auditeurs et auditrices pour une prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.